Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Geek. On est ravis de vous retrouver avec, comme chaque semaine, Marjorie Bénisson. Salut Marjorie.
Salut à tous.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Aujourd'hui, on va parler non pas de télévision, mais on va parler de YouTube. Et on a deux invités, Olivier et Léa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, YouTube, j'espère aujourd'hui quand même que tout le monde connaît YouTube. Est-ce qu'on dit quoi ? On dit que vous êtes YouTubeur, vous êtes vidéaste. Quelle est la définition qui vous sied ?
On est sur YouTube, alors on dit YouTubeur, mais ça veut pas dire grand-chose. Et je sais pas si... ça veut pas dire grand-chose. Et en plus, nous, on n'a pas la prétention de faire ça de manière très grandissimement. Alors je sais pas si on peut avoir ce titre-là qui veut déjà pas dire grand-chose, parce qu'effectivement faire de la vidéo sur internet, c'est pas forcément que sur YouTube. Déjà nous on est effectivement sur la plateforme YouTube, donc on peut utiliser ce terme, mais vidéaste, destination du web, du web chroniqueur. Moi j'aime bien le terme de web chroniqueur.
Web chroniqueur, c'est ouais. Pas mal, hein. J'aime bien. Pareil, même y a pas deux définitions différentes l'un pour l'autre.
Non, on se définit à peu près pareil avec. Alexis aussi, qui est le troisième larron, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est une définition un peu commune.
Alors, vous êtes originaire de Caen ?
C'est ça.
Oui.
Parce que YouTube, en fait, c'est pas votre métier. Enfin, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire que vous réalisez des vidéos sur YouTube, des chroniques sur le web, mais c'est pas votre métier. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui vivent de YouTube, mais c'est quand même pas la plupart.
Ou non, c'est une infime partie. Nous, en effet, enfin moi, je travaille pas, je suis étudiante dans la vie. Dans la vraie vie, des fois, comme je dis. Et c'est vrai qu'à part, il faut faire énormément de vues ou alors avoir des sponsorisations, faire des pubs, tout ça, des placements de produits pour espérer en vivre. Donc on en est très, 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 très loin.
On va parler du sujet tout de suite et après on passera aux choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Est-ce que c'est un objectif un jour de se dire, voilà, on voudrait pouvoir, pourquoi pas, vivre un jour de ces vidéos-là, ou est-ce que c'est vraiment un loisir et une envie de partager ?
Nous, notre objectif premier, c'était de s'essayer à un média qu'on connaissait pas, puisque on est tous les trois plutôt issus du théâtre. Alors moi, je suis comédien amateur depuis longtemps, je suis animateur en théâtre, professeur de théâtre depuis presque 10 ans, et on a fait partie, Alexis, Léa et moi, de la même troupe de théâtre pendant longtemps. De théâtre et d'audiovisuel, on a réalisé quelques courts-métrages amateurs ensemble, et puis voilà, on ne fait plus partie de ce groupe-là, en tout cas plus tous les trois de la même manière. Et un jour, on s'est dit, ce format YouTube est intéressant et on aimerait bien s'y essayer. En particulier après avoir vu, regardé et avoir été fan de Joueurs du Grenier. C'est surtout Joueurs du Grenier dans la formule qui nous a inspiré, et des gens comme Noob, par exemple, surtout dans le bricolage, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dire, on part de pas grand-chose et on est capable de faire quelque chose de correct, qui nous ressemble au départ et qui grossit. Donc l'évolution, le travail de Noob et la formule Joueur du Grenier nous a donné envie de s'essayer à ça.
Pour clarifier très rapidement, Joueur du Grenier, Noob, ce sont des gens qui sont alors sur YouTube ou sur le web en général de toute façon, qui sont à l'origine des amateurs et qui parlent essentiellement de jeux vidéo. Joueur du Grenier, plutôt des jeux vidéo anciens. Noob, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une base sur le MMORPG.
Voilà, c'est ça. C'est ça, jeu de rôle en ligne.
Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.
Ouais, voilà, c'est ça. Plutôt dans un univers médiéval, héroïque, fantasy.
Voilà. Et donc l'idée, c'était de s'essayer à ce format des vidéos sur Internet.
L'idée, c'était essayer ça, c'est-à-dire un montage très cut, une écriture très particulière qui doit être à la fois précise et percutante, ce qui est pas du tout facile à atteindre. On a mis un petit peu de temps avant de trouver un rythme et un créneau qui nous plaisait. On a mis du temps avant de trouver nos marques justement sur ce média-là.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette volonté de se dire, pourquoi pas le rêve, de se dire, et si un jour on pouvait en vivre, ou est-ce que c'est et ça doit rester une activité annexe, qu'elle soit en loisir ou pas, mais une activité annexe de votre activité principale, quelle qu'elle soit.
C'est un objectif idéal. Enfin, moi, depuis toute petite, j'ai rêvé d'être artiste sur plusieurs formes. D'abord, c'était la danse, puis le théâtre. Et c'est vrai que maintenant, si on me dit, tu deviens comédienne, tu fais ça pour tout le temps, j'hésiterais un petit peu, mais c'est vrai que le oui est très tentant. Après, faut pas du tout qu'on fasse ça pour ça, parce qu'on en est très loin, et puis faut que ça reste un plaisir avant tout. Si on fait ça juste pour essayer de devenir célèbre, je pense qu'on va dénaturer notre chronique, et ce serait dommage d'avoir ça comme unique objectif et de perdre en vue l'idée de se faire plaisir tous les trois en essayant de faire rire les gens à propos du jeu de société.
Ouais, c'est ce qu'on s'est dit depuis le départ, c'est-à-dire on s'est dit on fait les choses pour nous. On fait les choses pour nous parce qu'on a envie d'essayer ça, on a envie de voir comment ça peut marcher. Mais jamais la question de la notoriété ou de l'argent n'a été un objectif en soi, ni au début ni maintenant. Voilà, nous on a envie de faire des choses qui nous plaisent, qui soient on essaie d'augmenter la qualité pour notre satisfaction à nous et faire en sorte que ça plaise et que ça parle. C'est-à-dire qu'on est sur un créneau qui est un peu particulier et notre envie c'est de partager, comme tu le disais tout à l'heure. Donc tant que ça marche, on continue.
T'as vu à quoi tu joues ? Le titre, il vient d'où ? C'était une soirée un peu trop trop alcoolisée où vous vous êtes dit « Ah, se rappeler cette pub là sur le... »
Ouais, non, justement, on l'a presque trouvé un petit peu par dépit. Au départ, ça s'appelait « À quoi tu joues ?» juste. Et en fait, évidemment, avant de se lancer, alors on a... Le projet est né doucement, on a réfléchi à la forme qu'on voulait, on a commencé à tourner, le nom était toujours pas définitif. Et puis, quand il s'est agi de lancer pour de vrai les vidéos sur Internet, on s'est dit quel titre on donne. Donc on a cherché dans tous les sens sur Internet ce qui existait, et on s'est aperçu que À quoi tu joues juste comme ça, ça existait déjà. Alors c'était des noms d'émissions sur des chaînes en particulier, c'était voilà, il y avait des choses qui existaient, mais en même temps on s'était tellement nous attachés à ce nom là qu'on dit on va pas aller chercher plus loin, il faut qu'on trouve quelque chose, donc faut qu'on rajoute quelque chose, puis t'as vu à quoi tu joues.
Alors ce podcast, cette émission, elle parle de quoi? Elle parle de jeux en général, elle parle d'un type de jeu en particulier, alors on peut le dire, elle parle plutôt de jeux de société.
Oui.
Quel jeu de société ? Est-ce qu'il y a un créneau spécifique ? Est-ce qu'on parle aussi bien du Monopoly, du Scrabble que du dernier jeu sorti de chez Edge, par exemple ? Ou est-ce que voilà, il y a une gamme particulière ou un style de jeu qui vous intéresse ?
Pas du tout, non. Notre volonté, c'est vraiment d'essayer d'avoir un panel assez large. Donc notre premier épisode, notre épisode pilote, était sur le Monopoly. Mais depuis, on a en effet traité le jeu Le Trône de Fer de Edge. Mais on a aussi fait un épisode spécial jeu d'ambiance. Donc voilà, des fois, on s'impose des thématiques, donc vraiment des jeux qui tournent dans le même univers. Des fois, plus une contrainte, je dirais, presque formelle, du genre jeu d'ambiance. Voilà, c'est des mêmes types de jeux à deux. C'est des jeux qui se jouent un peu de la même mécanique. Et notre but, c'est vraiment d'essayer de voir des jeux très anciens. On a aussi traité du Cluedo, donc sorti en 51. Et comme des jeux sortis il y a 2 ans, voire même, on parle de jeux de 2016 de temps en temps. Et enfin, vraiment d'essayer de voir que le jeu de société, c'est quelque chose d'ancien, mais qui perdure aussi et qui se démode pas. Comment vous choisissez justement le thème la prochaine web chronique ?
Où on traite d'un jeu parce qu'on a envie de traiter, on a envie de traiter de ce jeu. Où on se dit quel thème aborder, parce qu'on a en fait trois formats. Il y a les chroniques où on ne traite que d'un seul jeu, les chroniques où on traite de 3 jeux. Dans ce cas-là, c'est généralement un thème précis, style western, jeu d'enquête, etc. Ou une formule 5 jeux. Et là, c'est effectivement plus une question de catégorie de jeu. Alors, jeu d'ambiance, jeu à deux, etc., comme disait à l'instant. Alors, comment on choisit un jeu? ou on choisit un jeu comme Les Chevaliers à Table Ronde par exemple, parce que c'est un jeu qu'on aimait beaucoup, qu'on a beaucoup pratiqué avec notre cercle de copains à une époque. Donc voilà, et puis il y a plein de choses à dire, plein de mise en scène à faire, donc on l'a traité en deuxième lieu. Et puis et maintenant on est plutôt sur des thématiques, c'est-à-dire voilà, quelle thématique on a envie d'aborder. Et quand on choisit une thématique, mettons jeu western, on va voir parmi ce qu'on connaît, on fait quelques recherches, voilà ce qu'on connaît, et puis on essaye d'avoir trois jeux choisis complètement arbitrairement, c'est-à-dire que on se dit pas qu'on traite uniquement les nouveautés, on se dit pas qu'on fait uniquement du rétro gaming, si on peut dire ça pour le jeu, que des trucs qui seraient sortis il y a longtemps. On fait pas que des trucs nuls et on fait pas que des trucs très bons. On essaye de prendre trois jeux qui se ressemblent pas, alors qu'ils aient 2 ans d'écart ou 15 ans, et on essaie de les traiter de la même manière. Le but du jeu étant de trouver des jeux sur lesquels on a des choses à dire. Puisqu'on prétend pas être une revue spécialisée dans le jeu de société, donc voilà, on traite d'un jeu parce que ou on l'aime bien et on a des choses à dire dessus, ou on l'aime pas et on a des choses à dire dessus, mais on va pas traiter un jeu juste parce qu'on l'aime beaucoup ou parce qu'on le déteste à mort.
Et du coup, ça vous arrive de tester un jeu de parler d'un jeu dans une vidéo sans l'avoir testé au préalable, hein. Juste arbitrairement, vous le choisissez. Du coup, il peut être bon, mauvais, mais vous le découvrez en fait. À la dernière minute ?
Ouais, à la dernière minute, non, parce qu'en plus, évidemment, les vidéos sont écrites. Donc, y a des jeux auxquels on a joué, qu'on a testé en se disant il aurait potentiellement sa place là par rapport à son contenu. À côté de ça, nous, on peut faire un scénario parallèle, raconter une histoire dans notre chronique ou mettre en scène visuellement, c'est intéressant. Donc, on est allé le chercher pour ça. Puis, il y a des jeux qu'on n'a pas pris, mais effectivement, ça nous est arrivé de chercher des jeux spécifiquement pour essayer de coller au thème qu'on trouvait. Mais on essaye de les tester un petit peu quand même, de s'en imprégner pour avoir des choses à dire, monsieur.
Quel est le credo du coup de ces podcasts ou de ces web chroniques ? C'est d'abord de faire rire, c'est d'abord de faire découvrir des jeux. Enfin, vous l'avez dit, vous êtes pas trick-track, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'avoir une explication d'une partie. On a des clés de compréhension, par contre, sur, je pense justement à l'épisode sur le jeu des chevaliers de la table ronde, on a des clés de compréhension de comment le jeu se joue, mais on n'a en aucune manière une explication des règles, et on sent bien que c'est pas le but. C'est pas non plus des sketchs, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont drôles, ne serait-ce que le début, je me rappelle, de la table de le trône de fer où vous poignardez les uns les autres pendant 10 minutes. Voilà, il y a une vraie volonté de démarrer par une accroche, par faire quelque chose de drôle. Mais du coup, c'est quoi ? C'est un équilibre ? Il y a une volonté derrière précise ?
Je pense que c'est vraiment l'envie de mêler les trois. En effet, on n'avait pas envie de faire des explis parties, parce que déjà, il y a plein de choses sur le net qui se ressemblent là, et c'était pas forcément un créneau qui nous plaisait, nous. Qu'en effet, donner des clés, c'est exactement ça, de pas faire le détail, mais voilà, quand les gens, du coup, auront le jeu dans les mains, avoir des idées de à quoi ressemble une partie, mais quand même être obligé de repasser par la case lecture. Et oui, donc essayer de faire rire en faisant découvrir les jeux, en faisant rire, sourire, et voilà, caser des petits gags et par-ci, par-là.
De se faire plaisir aussi, je suppose que de décrire et de trouver des situations qui vous font rire et qui vous intéressent en tant que comédien, parce que vous êtes comédien tous les deux, tous les trois, parce que vous êtes deux sur le plateau, vous êtes trois quand même à être devant la caméra. Je pense qu'il y a aussi peut-être ce plaisir-là de se dire ah ouais, si, ça me fait marrer de le tenter. J'ai pas vu l'épisode sur le western.
Dommage parce que c'est typiquement celui qui répond à ta question.
Et voilà, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que j'ai vu un bout de teaser où il y a des décors déjà, où il y a des costumes. Enfin, ouais. Je me dis voilà, on est typiquement sur ouais, si on se faisait un western quoi. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se faire un western.
C'est ça. C'est surtout vrai pour les chevaliers à table ronde en deuxième et puis jeu western donc pour notre saison 1. C'est-à-dire que ce qui est assez marrant sur ces épisodes-là, c'était de se dire comment tourner en dérision des jeux qu'on aime bien et en plus on en dit du bien, mais comment prendre ce qui se passe dans le jeu, les mettre ces actions-là sur des humains, enfin voilà, en chair et en os, et qu'est-ce que ça donne ? Et ça n'a pas grand sens et ça crée des situations un peu bizarres. Par exemple, dans Flick 'em Up qu'on traite dans jeu western, qui est un jeu de pitch, alors sur lequel il faut pitcher des petits bouts de bois qui font office de balles, de pistolets.
Comme jouer aux billes en fait.
Voilà, c'est ça, c'est une pichenette quoi. Dans ce jeu-là. Quand un cow-boy a fini son tour, il faut retourner son chapeau de la bonne couleur. Et juste ça, typiquement, si on le met sur un vrai cow-boy en chair et en os, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui retourne son chapeau. Donc voilà, donc là, il y a tout de suite un truc visuellement intéressant à faire. Le cow-boy très sérieux qui sort une réplique, un début de réplique de film connu de western. En plus, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et puis, il se fait arrêter par une assistante qui vient lui retourner le chapeau, lui mettre le chapeau à l'envers. Voilà, ça dure deux secondes et ça rythme le discours plus sérieux de l'explication du jeu, quoi.
Ça vient d'où les bretelles?
Le premier jour de tournage, c'est-à-dire épisode 1, donc le pilote écrit, on s'est dit, mais au fait, on s'habille comment? On est parti, le scénario était écrit, on savait ce qu'on voulait faire, le projet était lancé, la caméra est posée, l'éclairage mis. Mais attends, au fait, comment on s'habille? On était juste en t-shirt dégueulasse d'installation de matos. Et c'est Léa qui a eu l'idée.
Ouais.
Pour une fois, t'as vu, je pique pas. C'est Léa qui a dit. Et si on était des bretelles? Tout le monde, tous les deux, Alexis et moi, on a dit c'est une très bonne idée. Mais par contre, on est dimanche et des bretelles à la maison, y en a pas, quoi. Et coup de bol, donc ça c'est le théâtre et l'histoire de la troupe qui a joué en notre faveur ce jour-là. C'est-à-dire qu'on est allé chercher dans les costumes et on a réussi ici et là à retrouver trois, dans la maison il y avait trois paires de bretelles, donc on pouvait pas aller en acheter une de rame. Et c'est les trois bretelles qu'on porte dans l'épisode pilote, donc sur le Monopoly. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé pour les bretelles. Ça nous a plu, on a gardé et depuis on s'en est fait une. On a fait quelque chose de très rigoureux, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, on a des bretelles qui ne sont jamais les mêmes. Donc, on est obligé de s'équiper très régulièrement en bretelles. On attend le jour où des fans nous enverront des paquets de bretelles fait maison en tricot. Donc voilà, chemise bretelles.
Alors, une vidéo, ça dure quoi? C'est 7, 8, 10 minutes?
Autour de 15.
15?
Ouais, 15-20 pour 15-20. Les 18 pour les plus longues, ouais.
Ça marche. Combien de temps de travail sur une vidéo? C'est-à-dire qu'il y a le temps d'écriture? Il y a le temps de préparer, etc., de répéter un peu, parce qu'en plus, les textes, il n'y a pas de prompteur, vous apprenez vos textes, vous n'improvisez pas sur les vidéos. Derrière, il y a du temps de montage. Vous avez estimé un petit peu le temps de travail pour ces 15-20 minutes qui passent très très vite, 15-20 minutes, c'est rien.
On a... Ouais, c'est un format long pour YouTube. C'est un format assez long. On a essayé de faire une moyenne. En gros, c'est 10 heures d'écriture après les tests. Donc, une fois le thème et les tests faits, la trame de l'épisode établie tous les trois, c'est moi qui m'isole. Et en gros, ça me demande 10 heures d'écriture, mi bout à bout. Et c'est très, très souvent à la dernière minute. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plus d'une fois de finir le scénario à minuit la veille du jour où on avait prévu de tourner.
Mais ça laisse largement assez de temps pour apprendre les textes. Hein. Ça, c'est une...
Alors, c'est le gros avantage d'un format YouTube comme le nôtre avec un montage assez saccadé. Et puis, surtout, on s'est obligé à ça au fur et à mesure des tournages parce que c'était impossible d'apprendre des phrases qui mêlaient rythme, humour, rapidité et explication. Donc, on s'est servi du format YouTube pour justement faire des phrases très courtes. Donc en fait c'est de l'apprentissage immédiat. Eh bien on a le scénario sous la caméra, on lance le moteur avec la phrase appris à l'instant, apprise.
Mon Dieu,
les Français sont heureux là. Appris à l'instant et on la tourne dès qu'il y en a deux trois de bonnes, on coupe. Même chose, on réapprend la suite.
Pour enregistrer une phrase comme ça, il faut combien de temps? Il faut genre 2 minutes? Ou est-ce qu'il faut 20, 25 minutes? Parce que je connais des gens, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont la phrase sous les yeux, on leur dit la phrase, et il faut parfois 20, 25 minutes pour une phrase.
Ça,
et
c'est bien. On ne devrait pas le dire.
On ne devrait pas le dire non plus. C'est bien, mais c'est long. C'est très long.
Bah, ça dépend, tu poses la question à qui?
Je pose la question en général, globalement, comme ça.
À Léa ou à moi, parce que la moyenne n'est pas la même.
Qu'est-ce qui fait le montage derrière, justement?
C'est Alexis qui monte derrière.
D'accord. C'est lui qui rate le plus de phrases ou pas? Parce que si c'est lui, il s'en fout.
Non, c'est pas lui qui rate le plus. Enfin, on a tous des défauts différents face à la caméra. C'est-à-dire que On essaye de parler vite, donc c'est dur de parler vite et d'être compréhensible, donc il faut articuler. Donc il y a des fois, voilà, les phrases s'arrêtent parce que c'est pas assez articulé, donc on se fait, on se dirige et on se dit qu'il faut recommencer parce que c'est pas bon, donc ça peut être assez long. D'autres, c'est justement la mémorisation qui est plus dure. Quand il y a des phrases un peu plus longues que d'autres, il faut réussir à les remettre dans l'ordre et c'est plus dur. Les passages qui sont les plus difficiles à apprendre, par exemple, c'est la liste des noms des auteurs, des jeux, évidemment, des éditeurs qu'on fait en une seule prise. C'est une flopée hallucinante de noms, et quand t'es pas un ultra spécialiste, c'est pas des noms que t'as en tête spécialement, ouais. Donc tu les apprends juste pour le tournage et pour les débiter et que ça paraisse à moitié naturel. Faut là faire un gros effort de concentration.
Surtout quand il y a des auteurs allemands, néerlandais, oui, ou par là-bas, quoi. C'est pratique.
C'est très sympa à prononcer, à retenir, etc. Ouais.
L'avantage, c'est que c'est de la mémoire poubelle. Hein. T'es voilà, sûr que tu l'as enregistré puis ça repart direct.
Et le montage, justement, Alexis, quand il monte, c'est combien de temps? On est sur une dizaine d'heures, pareil que pour l'écriture.
Oh non, plus que
on
ça.
On est sur beaucoup non, plus que
c'est,
ça.
C'est plus long le montage. C'est difficile à dire parce que c'est difficile de dire combien de temps il y passe, mais ça s'étale, ça peut s'étaler sur 3 semaines, peut-être. 3 semaines, 1 mois, les périodes où il est le plus occupé. On a un ours. Alors, un ours, c'est le terme qui désigne un montage primaire, c'est-à-dire juste du bout à bout des plans gardés et choisis. On a un ours avec Alexis toujours très très rapidement, c'est-à-dire qu'il fait un montage très vite parce qu'il veut aller voir très vite les images. Il regarde ça très vite et il nous envoie. Et il peaufine le montage après. Et puis tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est colorimétrie, enfin voilà, transformer la couleur, harmoniser tout ça, ça demande 3 semaines. Une fois que ce montage-là est terminé, donc montage vidéo et effet, ça part à la musique.
Il y a le son derrière.
Et ça, c'est notre ami Vincent Toyer qui est actuellement étudiant au Conservatoire Royal de Bruxelles. À Belgique, qui fait notre musique. Alors généralement, la musique et les bruitages. C'est lui qui s'en occupe. Il fait toute la post-prod.
Du coup, il monte ou il compose pour vous spécifiquement?
Il y a quelques morceaux récupérés, mais l'idée de travailler avec lui, c'est que c'est un compositeur. Donc l'idée, c'était qu'on ait de la musique originale pour chaque épisode. Le thème de l'émission, c'est lui, et tout le reste, c'est lui qui compose.
C'est un énorme travail. C'est-à-dire que, enfin, quand on regarde 20 minutes de vidéo comme ça, on se rend pas compte du nombre d'heures qu'il y a, du nombre de corps de métier entre guillemets qu'il y a aussi. Et puis le format YouTube fait que, alors par rapport, on va parler de la télé ou du cinéma, le nombre de corps de métier est réduit drastiquement. C'est-à-dire qu'on parle de l'éclairage, mais l'éclairage c'est extrêmement important sur un plateau de tournage. Mais quand on est en cinéma ou en télé, il y a quelqu'un qui est responsable de ça, qui est responsable de là.
Et puis les petites mains derrière.
Puis les petites mains derrière. Là non, c'est-à-dire que il faut écrire.
T'es obligé de faire tout.
Voilà,
ouais.
Faut tout faire.
C'est épuisant d'ailleurs.
C'est épuisant. Alors est-ce qu'il y a un vrai intérêt aussi de se dire tiens, je savais pas que c'était aussi important d'éclairer, qu'il fallait faire gaffe à ça. Se dire que gérer un peu l'aspect technique. Est-ce que vous y trouvez un intérêt de se dire oui, on apprend aussi à cadrer un petit peu, on apprend à éclairer, on apprend à avoir une prise de son qui est correcte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi dans ce format vidéo ou c'est juste des corvées annexes?
C'est quelque chose qu'on connaissait déjà en fait parce que donc dans la troupe dont on faisait partie, on faisait un peu de court-métrage. Oui, donc on connaissait cet aspect technique. C'est vrai qu'il s'est donc forcément étoffé et spécialisé, surtout parce qu'éclairer un studio, c'est pas la même chose que éclairer juste 2 acteurs dans un plan cadré serré. Et la prise de son aussi, on connaissait un petit peu. C'est vrai que là, on pose le son sur un pied, il n'y a pas grand-chose à bouger. Mais c'est vrai que le son, on a évolué aussi. On a racheté du matériel en cours de route pour avoir une meilleure qualité d'image. On a changé d'appareil photo pour avoir moins de bruit sur l'écran. Donc c'est des choses qu'on connaissait, mais on approfondit nos connaissances.
Moins de bruit, c'est de l'image qui... Il y a du grain un peu sur l'image, ça pixelise un peu. Enfin, c'est pas que ça pixelise, c'est que l'image n'est pas très belle, elle fait un peu abîmée.
Voilà. Ouais, une couleur unie paraît pointillée alors qu'elle est censée être unie.
Alors, on parle d'achat de matériel. C'est une transition qui est magnifique. Merci. C'est quoi Tipeee? Ça sert à quoi? C'est pas le truc pointu dans lequel dorment les Indiens, on est d'accord?
Aussi, mais pas là. Tipeee fait partie de ces plateformes de financement participatif. Il en existe un certain nombre sur Internet. Ulule, My Major Company, KissKissBankBank.
Kickstarter.
Kickstarter, voilà. Mais Tipeee est spécialement destiné aux contributeurs web. Des youtubeurs, des gens qui créent de la vidéo régulièrement sur Internet. Mais aussi des gens qui vont poster, alors pas forcément de la vidéo, mais du son, de la musique, mais aussi des gens qui vont, par exemple, entretenir un blog ou un site d'images, de peinture, de création graphique, etc. Contrairement aux autres sites. On n'essaye pas d'accumuler une seule fois une somme sur un temps donné, mais on va laisser des tips. En fait, ça vient, c'est là un Tipeee. On va laisser des tips, donc pourboire en anglais, qui vont être soit uniques, soit mensuels. C'est-à-dire que quelqu'un peut décider de nous soutenir à hauteur de 1 euro, mais 1 euro tous les mois. Et c'est une formule qui est très intéressante pour des gens comme nous, parce que sur cette activité-là, t'as vu à quoi tu joues, c'est notre seule entrée d'argent. C'est très intéressant cette formule, puisque comme ça, on sait à peu près sur quel montant on peut se baser pour le mois d'après. C'est-à-dire qu'on sait combien de tipeurs nous avons, combien ils nous donnent par mois, et donc même s'ils sont évidemment libres d'arrêter quand ils veulent, on sait à peu près sur quelle somme on peut parier le mois suivant. Et on peut aussi donner des tips uniques, c'est-à-dire voilà, on nous donne 80 euros une fois.
C'est à la fois le concept du chapeau qui passe en théâtre de rue, et les gens mettent un peu ce qu'ils veulent, donc ce format pourboire, et en même temps ce principe de l'abonnement, mais de l'abonnement volontaire, quoi.
C'est ça.
Et souvent sur des très petites sommes.
Oui, bah le principe c'est ça, c'est que plutôt que de donner effectivement, se dire un mois, voilà, je claque 50 euros pour le soutenir à moi, eh ben non, je vais me dire je le soutiens sur sa première année, sur ses deux ans première année, en admettant que 1, 2, 3 euros, et puis chaque mois on voit pas trop la différence. Mais par contre, ça fait tout cumulé pour le youtubeur ou l'équipe en question, ça fait une vraie différence et ça fait une somme de fonds qui tourne et qui nous assure de ne pas être à zéro, quoi.
Pour conclure cette petite émission, votre jeu préféré ?
Non, pas cette question.
Mais oui, c'est nul, tout le monde la pose, en plus, c'est hyper dur de choisir.
On ne peut pas choisir, il y a tellement de choses.
On va
en
faire
plus
simple, le dernier jeu auquel vous ayez joué.
Non, attends, moi je préférais, moi je peux répondre. Quand on pose cette question-là, je réponds deux jeux. Parmi ceux qu'on a traités dans Ta vue à quoi tu joues, actuellement, c'est Colt Express de chez Ludonote. Mon jeu actuel, je pense, le jeu que je préfère actuellement, qu'on n'a pas traité dans Ta vue à quoi tu joues, c'est Seven Wonders et Seven Wonders Duel.
Léa, le dernier jeu auquel t'as joué ?
Ouais, dans mes derniers coups de cœur, il y a évidemment l'As d'Or 2016, qui est donc Mysterium.
Ça, c'est vraiment une formule de youtubeuse. Alors, dans mes coups de cœur actuels, alors mes favoris du mois de janvier.
Bah, je suis une fille, donc faut que je force un peu le trait. Non, mais donc Mysterium, qui je trouve est vraiment très très bien. Qui allie Dixit et Cluedo et qui sont déjà deux jeux à la base que j'adore, et donc voilà, c'est parfait. Et mon dernier gros coup de cœur, c'est Time Stories, à mi-chemin donc entre l'escape game, mes deux plateaux, le jeu un peu drôle parce qu'il faut quand même incarner son personnage, et le jeu de plateau, vraiment un très gros coup de cœur sur ce jeu.
Ouais, vraiment génial.
Merci.
Merci à vous.
Petit coup de pub quand même. Si on veut voir vos podcasts dont on a parlé pendant toute cette émission, déjà faut avoir internet parce que le Minitel c'est fini. Faut aller sur YouTube.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on cherche ?
36-15,
t'as vu à quoi tu joues ? On tape juste t'as vu à quoi tu joues et on vous trouve.
C'est ça.
C'est ça. C'est ça, c'est ça. On a une page Facebook, on a cette plateforme de financement participatif.
On est sur Twitter.
On est sur Twitter.
Ça tweet en plus.
Ouais. On a énormément de followers.
Vous êtes,
là.
Vous êtes de Caen, hein, vous êtes de la ville aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Ça change tout. Hein. Non. Et puis évidemment sur YouTube ou sur n'importe quel moteur de recherche, maintenant on nous trouve aussitôt. Donc voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Marjorie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.